Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour 90 minutes info sur CNews avec notamment au programme la manifestation de soutien à l'imam Ikoussienne à Paris, la manifestation aussi des motards en colère ou encore le plan de sobriété énergétique entre autres. Vous restez avec nous et avec nos invités, William T est là. Bonjour William T, soyez le bienvenu. Jonathan Siscou, bonjour. Et Jean-Michel Fauvergue, bonjour. On est ravi de vous accueillir. Mais d'abord, on fait un point sur l'actualité avec Arthur Moriot.
Près de 4 jours après la mort de l'ex-dirigeant de l'URSS, Mikhaïl Gorbatchev, ses funérailles ont eu lieu aujourd'hui. Une centaine de personnes sont venues lui dire adieu, mais pas Vladimir Poutine. Aucun jour de deuil national n'a été décrété par le Kremlin. Précisons aussi qu'en raison de la guerre en Ukraine et du contexte diplomatique qu'elle implique, aucun grand dirigeant mondial n'était présent à la cérémonie. Alors que l'imam Hassan Ikyusen est toujours en fuite après la validation de son expulsion par le Conseil d'État, une manifestation en soutien à celui-ci est organisée aujourd'hui à Paris. Les organisateurs s'opposent à son renvoi du territoire et dénoncent, je cite, une islamophobie d'État. L'avocate de l'imam marocain parle même de chasse aux musulmans. Après 2 ans d'absence, la braderie de Lille fait son grand retour. Avec ses 80 km d'étal et quelques 8000 exposants, elle est considérée comme la plus grande d'Europe. Entre 2 et 3 millions de visiteurs sont attendus jusqu'à demain 18h. A noter que chaque édition, près de 5000 tonnes de moules sont dévorées durant ce week-end.
A tout à l'heure Arthur pour un point sur l'actualité dans une demi-heure. On en revient donc à cette affaire de l'imam Ikoussienne, un rassemblement qui fait débat aujourd'hui puisque c'est une manifestation de soutien à cet imam qui est en fuite depuis la décision du Conseil d'État visant à l'expulser. Et cette manifestation a lieu cet après-midi, place de la République à Paris. Elle a démarré il y a une demi-heure à peu près, pour l'instant pas énormément de monde. Une manifestation qui n'a pas été interdite, mais devait-elle être maintenue, devait-elle avoir lieu, Jonathan Siscou, cette manifestation?
A priori, on ne peut être que surpris, pour ne pas dire choqué, qu'une manifestation de soutien à un homme reconnu comme auteur de délit, qui plus est en fuite, soit autorisée. Ça paraît assez incohérent, si je puis dire. Le message envoyé par les autorités est totalement incohérent. Ça voudrait dire que la décision de la justice française, de l'État français, n'est finalement pas si certaine que ça, si valable, et qu'on peut, avec toute légitimité, la contester dans la rue. Ensuite, quand on voit ces slogans, ils sont purement délirants, comme un État qui fait la chasse aux musulmans, un État islamophobe, enfin c'est totalement hors de propos. C'est une façon de, encore une fois, de regarder le doigt et non la lune.
Si cette manifestation a eu lieu, Jean-Michel Fauvergue, c'est aussi peut-être pour respecter une forme de liberté d'expression, ou c'est vraiment ressenti comme une nouvelle insulte à l'État?
Alors évidemment que les slogans sont complètement délirants. Évidemment que le motif même de cette manifestation est complètement tordu et hérite tout le monde, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour autant, on est dans un état de droit et la manifestation est un droit de hauteur constitutionnelle. Et donc, les interdictions de manifestation, bien évidemment, existent. Mais pour interdire une manifestation, il faut que ça soit motivé par un trouble à l'ordre public et renseigné par, en général, les services de renseignement. Alors, c'est vrai qu'on peut regretter, et moi, je le regrette aussi, bien évidemment, d'avoir ce type de manifestation-là. Bon, on s'aperçoit quand même, ils sont 5 pelés et 3 tondus, hein, quand même, sur cette manifestation. Donc, ça prouve véritablement que l'audience de ceux qui ont appelé à cette manifestation, on peut le regretter. Je le regrette. C'est quelque chose qui, moi aussi, m'horripile, bien évidemment. Par contre, on a des règles de droit à respecter. Et ça, c'est quelque chose qui nous place au-dessus de ces gens-là. Au-dessus de ces gens-là.
William T, alors effectivement, il n'y a pas beaucoup de monde. Néanmoins, cette manifestation a lieu. Symboliquement, elle existe. Est-ce qu'on ne joue pas un peu avec le feu par rapport aux messages qui sont véhiculés? On rappelle que l'imam a fui la France. Hein. Aujourd'hui, il est toujours recherché.
Je pense qu'on aurait dû interdire la manifestation parce que cette manifestation est une insulte à la France. Monsieur Fauvergue a dit qu'on pouvait interdire les manifestations, effectivement, parce que comme c'est un droit fondamental, un droit constitutionnel prévu par la préambule de 46, on doit prévoir des troubles à l'ordre public. Mais comment on a réussi à interdire les spectacles de Dieudonné à l'époque, lorsque Manuel Valls était ministre de l'Intérieur et Premier ministre ? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas interdire les manifestations envers l'imam Iqiyoussen ? Parce qu'il manifeste en soutien de quoi ? Par rapport à ses propos antisémites ? Par rapport à ses propos contre les droits des femmes ? Par ses propos contre les différentes communautés ? Par ses propos de soutien par rapport aux frères musulmans dont les valeurs sont incompatibles avec la République française ? Par rapport à son message d'intégrisme et son rôle de prédicateur qui influence des milliers et des millions de jeunes musulmans en faveur qui placent la charia au-dessus des lois de la République ? Non, je pense qu'on aurait dû interdire cette manifestation parce que c'est contre les valeurs françaises. Et c'est contre notre modèle de civilisation. Et je trouve, en France, on a un problème de liberté d'expression, et la liberté d'expression est à géométrie variable. C'est-à-dire que vous pouvez vous exprimer pour manifester contre la France, etc. Par contre, lorsque vous voulez défendre certaines valeurs ou certains principes, là où vous faites interdire par la préfecture de police, ou éventuellement vous êtes censuré sur les réseaux sociaux, voire éventuellement par une certaine presse bien pensante. Donc je pense qu'il faut rétablir la liberté d'expression, mais la liberté d'expression en faveur d'un certain cadre et qui respecte les valeurs françaises et les valeurs de la République française. Et je pense qu'il faut insister dessus, parce que M. Iqiyoussen, lorsqu'on permet ce type de manifestation, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'on a le droit de regarder ce type de vidéos, on a le droit de regarder et partager ce type de propos qui propage à longueur de temps depuis le début des années 2000 et qu'on a le droit d'être en accord avec tout ce qu'il dit. Non, je ne pense pas qu'on a le droit d'être d'accord avec ça. C'est contre notre modèle, c'est contre nos principes et il faut le déclarer inconstitutionnel et incompatible avec nos valeurs.
Jean-Michel Fauvergue, même les banderoles, les panneaux avec les messages qui sont inscrits dans Place de la République pour les quelques manifestants qui sont sur place sont répréhensibles tout de même, puisque c'est tourné contre l'État très, très, très clairement en disant pays islamophobe, chasse aux musulmans. Est-ce qu'on peut sanctionner cela aussi ? On ne peut pas tout dire, même dans une manifestation ?
Non, on ne peut pas tout dire, évidemment, dans une manifestation. Les propos qui sont hors la loi, évidemment, seront sans doute poursuivis. Je suis sûr. Que vous avez des services de renseignement, le renseignement territorial qui est en train d'analyser. D'abord, il analyse le nombre de personnes qui sont sur place. C'est aussi important de savoir si ce type de manifestation est suivi. Et aujourd'hui, ça nous donne des indications. On voit qu'il n'y a personne. Donc on est quand même sur quelque chose, moi, qui me semble intéressant et important ces derniers temps. D'abord, la décision du Conseil d'État qui va dans le sens du ministre de l'Intérieur. Donc, de l'expulsion de cet imam-là, qui, rappelons-le, a eu des propos racistes, xénophobes, antisémites, contre les femmes, contre les homosexuels, etc., etc., contre les valeurs de notre République, bien évidemment. Et donc, le ministre de l'Intérieur, là-dessus, l'État, on fait toujours des procès à l'État, mais l'État, dans ce domaine-là, en respectant les règles de droit qu'il s'est fixées, a eu raison et le Conseil d'État lui a donné raison. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est qu'effectivement, en cette manifestation-là, le peu d'affluence dans la manifestation donne, pour ainsi dire, une deuxième raison à cet État. L'État fort fait que l'État qui suit ses règles fait que aujourd'hui, ceux qui ont perdu sur toute la ligne, ce sont à la fois cet imam-là, qui ne reviendra plus en France, qui ne devra plus revenir en France, qui est expulsé de France, rappelons-le, quelles que soient les péripéties, il est expulsé de France, c'est le résultat. Et la deuxième chose, c'est qu'il est soutenu par 4 personnes, quoi, aujourd'hui.
Oui, c'est ça. Voilà pourquoi, Jonathan Siscou, cette manifestation restera. On va évoquer la situation de l'imam Iqiyoussen dans quelques instants, le fait qu'il ait fui la France. Où est-il, d'ailleurs, mandat d'arrêt européen, mais cette manifestation, finalement, va rester anecdotique.
La manifestation, si elle en reste à ce stade, effectivement, elle sera anecdotique et bien des gens ne seront même pas au courant qu'elle a lieu et qu'elle a eu lieu aujourd'hui à Paris. En revanche, là où je suis un peu plus inquiet, si je puis dire, c'est qu'on nous annonce déjà, comme un feuilleton à suivre, une intervention de M. Iqiyoussen par médias ou réseaux interposés pour répondre à la décision de l'État français, pour en répondre à M. Darmanin, en quelque sorte. Et là, ça va prendre encore une autre proportion à travers, encore une fois, ces réseaux, ces médias sociaux, puisque cet homme fugitif, indésirable sur tout le sol territoire européen, va pouvoir, on peut l'imaginer, bravache, tenir tête à tout le monde avec ce discours victimaire intolérable. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ça qui est à craindre et c'est ça qu'il faudrait d'une façon ou d'une autre être capable d'enrayer. Encore une fois, on a tendance, enfin c'est pas qu'on a tendance, on parle fréquemment ces derniers temps de la possibilité de priver de comptes sur les médias sociaux des auteurs de délits, quels qu'ils soient. La priver, de pas couper la parole à M. Etiosen, qu'il soit à Bruxelles, qu'il soit à Rabat, qu'il soit à Paris ou à Mulhouse, lui couper la parole tout simplement serait une des façons de résoudre le problème, parce que on ne va faire finalement qu'ajouter de la pression à une sorte de pression médiatique à cela. Je regarde les images, il y a plus que 10 personnes.
Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Je suis en train de communiquer avec la régie, effectivement, où il y a plus que 10 personnes, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se sont rassemblées maintenant en place de la République et on est plus proche d'une centaine de personnes désormais. Néanmoins, votre propos reste juste.
Bien sûr, voilà, le propos ne peut rester que celui-ci, c'est-à-dire que on n'en a pas fini avec ce monsieur parce que on nous annonce déjà qu'il va parler. C'est l'acte 2, c'est la deuxième saison d'ores et déjà qu'on nous annonce.
Ça risque d'être un feuilleton, en effet, un feuilleton médiatique. Je vous cède la parole dans quelques instants, juste pour resituer un petit peu le contexte. L'imam Hassan Iqbal est à présent visé par un mandat d'arrêt européen. On le sait, il reste introuvable, il est parti à l'étranger, peut-être en Belgique. L'imam marocain est donc sous le coup d'un arrêté d'expulsion et Jeanne Cancard est allée à la rencontre de sa famille dans le nord de la France, au domicile de l'imam.
On s'est entretenu avec deux des cinq enfants d'Hassan Iqbal, ces deux enfants qui déplorent cette chasse à l'homme qui a été, selon eux, engagée contre leur père. On ne comprend pas pourquoi ils veulent faire revenir notre père en France pour ensuite l'expulser de nouveau. Parmi ces deux enfants, il y en a un qui est lui aussi imam ici dans le Nord. Il nous explique qu'il n'a plus de nouvelles de son père depuis le début du mois d'août, depuis que, selon lui, son père a quitté le territoire français. Je pense qu'il doit être chez des amis, c'est ce qu'il nous a confié. Il nous a aussi dit qu'il préférait savoir son père en lieu sûr à l'étranger plutôt que dans un pays comme au Maroc. Il nous a aussi dit que ce qu'il souhaitait aujourd'hui, c'est que son père revienne ici en France, soit potentiellement jugé ici en France pour pouvoir se défendre et ainsi être innocenté. L'autre fils, lui, nous a dit que son père allait bien, qu'il avait eu des nouvelles par son avocate. Pas dans l'immédiat, mais il y a quelques temps, il avait pu avoir des nouvelles via l'intermédiaire de son avocate. Il nous a aussi parlé du dîner qui avait eu lieu en 2014 en vue des élections municipales entre Gérald Darmanin et Hassan Iqbal en présence d'autres personnalités. À ce moment-là, mon père avait déjà tenu des propos qu'on lui reproche. Alors pourquoi attendre tout ce temps? Tout cela est politique. Les deux frères qui dénoncent un acharnement politique et judiciaire. Le deuxième frère avec qui nous avons pu échanger, nous a dit que son père pourrait éventuellement, dans les prochains jours, s'exprimer. Et que d'ici là, il veut rester à l'abri, à l'étranger, car son père, il le martèle, il le répète, n'est pas un criminel.
Voilà, donc ce sont les enfants, les deux fils, effectivement, de l'imam Iqbal qui s'expriment, qui ne communiquent pas où se trouve pour l'instant l'imam Iqbal, mais peut-être le savent-ils. Mais peut-on parler, Jean-Michel Fauvergue, néanmoins, de défaut de surveillance, s'il a pu s'échapper tout de même en sachant pertinemment que peut-être il allait être finalement expulsé?
Il faut revenir sur les bases de la réglementation. Le ministre de l'Intérieur a pris ce qu'on appelle une OQTF, une ordonnance à quitter le territoire de la République, et c'est administratif, c'est un acte administratif. Un acte administratif, il n'y a pas de contrainte. On ne peut pas préventivement arrêter la personne, on n'est pas en judiciaire, on ne peut pas arrêter la personne, la mettre, par exemple, en garde à vue, jusqu'à ce que le Conseil d'État se prononce. Le ministre de l'Intérieur, d'ailleurs, l'a dit, il me semble, hier. On ne peut pas le mettre en garde à vue. Par contre, pour autant, on peut le surveiller avec des services de renseignement. Là, on n'a pas d'informations là-dessus.
Il est passé entre les mailles du filet, alors?
Non, on n'a pas l'information sur ce qu'ont fait les services de renseignement. Heureusement, parce que c'est des services de renseignement.
Vous voulez dire que peut-être les services de renseignement savent où ils se trouvent ?
Je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Je ne sais pas, je ne suis pas dans le cœur de chauffe de ça. Mais bon, n'allons pas trop vite. Mais de toute façon, la réalité, j'entendais les déclarations, enfin ce n'est pas les déclarations directes
des deux fils,
des deux fils, mais ce que rapportait la journaliste, c'est de dire que c'est une affaire politique. Mais bien sûr que c'est une affaire politique, bien évidemment que c'est une affaire politique. C'est une affaire politique sur, d'un côté, les valeurs de la République, et de l'autre côté, un imam qui pratique un islam politique, est un islamiste, qui pousse à la haine. Et bien sûr qu'il y a, deux conceptions qui s'affrontent, la conception de la République et l'autre conception. Et au final, la personne qui a répandu ces idées-là, et bien au final, le Conseil d'État a donné raison au ministre de l'Intérieur, et cette personne est partie du territoire national, doit dégager du territoire national, et c'est ça le résultat. Et c'est non seulement ça le résultat, mais c'est le résultat de ce qui va arriver aussi ultérieurement à d'autres imams qui sont dans la même situation, parce que la dernière loi que nous avons votée dans le dernier quinquennat nous permet de le faire. La loi sur le respect des libertés de la République, la loi dite séparatisme.
Il doit dégager du territoire. Je reprends les propos de Jean-Michel oui. Fauvergue, William T. Sauf que dans son cadre, dans son histoire, il a la double nationalité. Il est aussi français.
Il a refusé la nationalité française. Non, le souci, c'est pour Gérald Darmanin, c'est qu'il est parti, mais il est parti pas parce qu'on l'a envoyé nous-mêmes, c'est qu'il a fui. Donc il a eu la liberté de choix et la liberté de résidence. Actuellement, vraisemblablement, il est possiblement dans un pays européen, en tout cas c'est une possibilité, éventuellement en Belgique. La difficulté, c'est que s'il est en Belgique et qu'on a une liberté de circulation au sein des pays européens, c'est-à-dire qu'il peut circuler dans tous les territoires de l'Union européenne actuellement, parce qu'il n'y a pas de contrôle aux frontières dans les territoires de l'Union européenne. Moi, je pense que le sujet essentiel, c'est comment on se fait respecter à l'international et comment on fait pour vaincre le totalitarisme islamique, parce que c'est ça la véritable question. C'est comment on fait pour que ces imams et ces prédicateurs ne puissent plus sévir sur le territoire français sous l'égide notamment des frères musulmans ou d'organisations salafistes, wahhabistes, etc. Je pense que le sujet essentiel, c'est de déposer une loi pour vaincre le totalitarisme islamique et adopter une politique étrangère qui soit cohérente. Monsieur Iqoucen n'a rien à voir avec nous pour deux raisons. Une raison, c'est qu'il sévit sur le territoire français parce qu'il prône et il tient des discours qui sont incompatibles avec notre République, nos valeurs et notre civilisation. Le deuxième point, c'est qu'il fait de l'entrisme pour l'ennemi et pour l'ennemi de l'extérieur, les frères musulmans, les wahhabistes et éventuellement certains États du Maghreb et des pays du Golfe. Et je pense qu'il y a beaucoup d'imams qui sont dans son cas et que l'imam Iqoucen doit être un exemple. Ça veut dire qu'il faut interdire ce type de manifestation pour ne pas encourager, parce qu'il a un public. On vous disait effectivement peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de manifestants, mais le nombre de ses vues sur YouTube a augmenté de 275% durant la médiatisation de cette affaire. Et petit à petit, c'est en train de se retourner contre nous, comme à l'époque de Manuel Valls avec Dieudonné. Et donc, il faut interdire à ces personnes de pouvoir s'exprimer, parce que ces propos ne sont pas d'une liberté d'expression, c'est des propos qui sont répréhensibles pénalement. Ce sont des délits, ce qu'il dit. Et tant qu'on ne mettra pas une loi concrète sur l'islamisme et le totalitarisme islamique, on ne sera pas en capacité de lutter, parce qu'on n'est pas armé face aux juges et face aux différents carcans qui nous bloquent notre moyen d'action. Et je pense que c'est là le sujet essentiel. L'imam doit être un exemple, les autres doivent suivre. Si François Hollande, qui n'était pas quand même réputé pour être un grand courageux sur cette question, a pu mettre des partisans administratives au lendemain des attentats du 13 novembre, pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron et Gérald Darmanin, qui souhaitent être actifs sur cette question, n'arrivent pas à le faire ?
Jonathan Siscou, s'il a fui, c'est qu'il se sent coupable de quelque chose, forcément, non ?
S'il a fui, c'est qu'il a senti, en tout cas, le vent du boulet se rapprocher de lui. Je ne pense pas qu'il se sente coupable de grand-chose. Je ne peux qu'abonder dans le sens des propos de William. Il se pose clairement en ennemi. Donc il n'a pas à se dire j'ai fauté ou quoi que ce soit. C'est nous qui disons qu'il faute qu'il est dangereux pour nous. Je remarque quand même une chose, c'est que depuis quelques jours, il y a un mandat d'arrêt européen. Donc il peut se balader effectivement librement dans l'espace Schengen. Ensuite, si les polices de nos pays voisins le repèrent, elles peuvent l'arrêter et le remettre aux autorités françaises. Et je vous rappelle que dans le passé, les autorités belges et françaises ont toujours très bien travaillé, notamment sur des histoires de terrorisme. Plusieurs terroristes des attentats de Paris, de Saint-Denis, ont été arrêtés en Belgique et envoyés en France. Il me semble que le terroriste du musée juif de Bruxelles a aussi fait des allers-retours, des navettes pour être jugé dans les deux pays. Donc je ne suis pas, de ce point de vue-là, inquiet, si vous voulez, quant à la coopération européenne de nos services et de nos polices. Ensuite, le message, effectivement, reste assez lamentable, surtout, et on y revient toujours, s'il médiatise sa fuite et si ça devient un peu une course-poursuite médiatisée où il ne pourra que narguer les autorités françaises.
En tout cas, vous vous souvenez très bien que sur CNews, au micro de Pascal Praud, le ministre Gérald Darmanin s'était félicité que l'islamisme ait fui pour expliquer cette...
Oui, pardon, excusez-moi, durant cette interview, Gérald Darmanin a aussi dit quelque chose, excusez-moi, ça me revient à la seconde, il nous a aussi dit qu'il ne disait pas tout, Il a repris Pascal Pro à un moment en lui disant j'ai des informations.
Je ne peux pas tout vous dire.
Je ne peux pas tout vous dire.
C'est pour ça que je posais la question tout à l'heure à Jean-Michel Fauvert. Peut-être qu'il y a des informations, évidemment, dont nous ne disposons pas aujourd'hui. Et peut-être qu'est-il localisé. En tout cas, de son côté, transition toute trouvée, le ministre de l'Intérieur, lui qui s'est exprimé sur ce dossier, continue son travail. Il a maintenu d'ailleurs son soutien aux forces de l'ordre lors de sa visite à Lille aujourd'hui. Il faisait notamment allusion aux policiers placés en garde à vue et mis en examen après la mort par balle d'un jeune lors d'un refus d'obtempérer à Neuville-en-Ferrin, dans le Nord. On écoute Gérald Darmanin.
Bien sûr, la police et la gendarmerie doivent intervenir, sans aucune espèce de doute, et je pense que je les encourage beaucoup à intervenir et que je les soutiens dans leurs interventions. Je veux d'ailleurs ici dire à Neuville-en-Ferrin que, Madame le maire, nous sommes solidaires, évidemment, dans le dramatique événement qui a lieu ici, et je veux redire mon soutien total aux policiers de la République pour leurs interventions. J'ai confiance dans les fonctionnaires qui sont sous votre autorité. La justice doit faire son travail et il est normal qu'elle puisse le faire, mais je veux redire qu'a priori, moi, je fais confiance aux policiers et aux gendarmes de la République, puisque pour moi, c'est a priori les policiers et les gendarmes qui ont raison et pas les délinquants.
Jean-Michel Fauvergue, là, on parle encore de refus d'obtempérer, du cadre aussi de la légitime défense, dont on a beaucoup débattu sur ce plateau, en effet, mais on est encore dans ce contexte-là. Et là, très clairement, le ministre de l'Intérieur est proche des forces de l'ordre.
Ah ben le ministre de l'Intérieur soutient ses forces de l'ordre et il a raison. Il faut soutenir ses forces de l'ordre. Il faut soutenir, et rappelons-nous une chose très simple, ces derniers temps, effectivement, l'usage de l'arme à la suite de personnes qui n'obtempèrent pas s'est multiplié. Mais à chaque fois, dans tous les cas, on s'est aperçu que les gens qui n'obéissaient pas et qui n'obtempéraient pas, ce sont des multirécidivistes. C'est des gens qui sont fortement connus. Il y a dans cette affaire-là plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que pourquoi ces gens-là n'obtempèrent pas ? Parce que à la toute première infraction qu'ils ont faite, il n'y a pas eu de peine immédiatement appliquée. La première pénalité est la plus importante. Tout le monde vous le dira. Donc, il faut revoir ce système de, non pas de réponse pénale, mais de sanctions pénales immédiates dès le départ. Et la deuxième chose, on assiste de plus en plus à des usages d'armes de la part des forces de l'ordre, des policiers, des gendarmes, parce que de plus en plus, ils sont agressés sur leur... C'est parce qu'ils subissent une agression extérieure, ils sont agressés sur leur point, et de plus en plus, ils sont désinhibés par rapport à cet usage de l'arme-là. Et il y en aura de plus en plus, je vous le garantis. Pourquoi il y en aura de plus en plus ? Parce que l'effet de régulation, justement, de la première sanction, qui doit être une sanction... qui marque les choses, cet effet de régulation de la justice n'existe plus. La justice a perdu son effet de régulation. Et la régulation va se faire différemment. Je le dis aujourd'hui, je ne m'en réjouis pas, mais la régulation se fait différemment. De la même manière qu'avec la population, vous avez vu qu'il y a quelques jours de ça, deux octogénaires se sont fait agresser. La dame octogénaire a mis un coup de couteau à ses agresseurs. Et elle était en cas de légitime défense, cette dame-là. Donc, il y a des régulations qui vont se faire. Je le regrette, mais c'est parce que ceux qui sont chargés de faire cette régulation-là ne le font pas, la justice en particulier.
Alors, justement, dans le domaine de l'insécurité et de la justice, les habitants de la cité de la Renardière à Noisy-le-Sec, c'est en région parisienne, sont sous le choc, aujourd'hui terrorisés, puisque au mois d'août, trois fusillades ont eu lieu dans cette cité. Deux personnes, d'ailleurs, ont été blessées. Le reportage de Régine Delfour et de Fabrice Echner.
Ce jeudi 25 août, Paul, le prénom a été changé, vient de rentrer de vacances. Il discute avec ses voisins devant la caravane qu'ils ont transformée en buvette. Mais vers 23h30, leur soirée vire au cauchemar.
Il a vu le monsieur arriver avec le fusil à pompe et c'est là qu'il nous a dit « allez, cachez-vous ». Et quand il nous a dit « cachez-vous », la première chose, c'est on s'est caché comme on pouvait. Sauf que c'est notre ami qui s'est pris quand même deux balles de plomb, de chevrotine, là, comme ils disent. Mais le monsieur, il arrivait, visage découvert, sans pitié. Il était là sans pitié.
En 19 jours, trois fusillades ont éclaté aux 60 rues de Douy. Les habitants, désormais cloîtrés comme cette femme, vivent la peur au ventre.
On vit plus, on dort plus. Dès que ça claque, on se réveille. Mon enfant sort plus. Ne sort plus, à part avec moi, mon enfant sort plus.
Qu'est-ce que vous avez peur de quoi ?
Une balle perdue. C'est surtout ça qu'on a peur pour eux. On ne sait pas quand est-ce que ça va venir, à quelle heure. Si je peux trouver ailleurs, oui, je partirai. C'est impossible de vivre ici.
Si les enquêteurs ne privilégient aucune piste, le point de deal au coin de la rue semble bien être à l'origine de ces fusillades. les riverains se sentent délaissés.
On ne peut pas vous mettre des caméras parce que la mairie n'a pas d'argent. Quand la police est venue, nous a dit qu'on a eu un cas comme le vôtre. Au bout de 6-8 mois, ça s'est calmé tout seul. Donc, restez chez vous 6-8 mois cloîtrés. Avec un peu de chance, ça se passera.
Même si les patrouilles de police sont plus fréquentes, les habitants de la cité de la Renardière pensent tous à déménager.
William, c'est une situation qui est tout de même assez effrayante, mais qui ressemble de plus en plus au quotidien de certains quartiers, de certaines cités, et la police ne peut pas être partout ?
Bah, c'est un drame quand ça arrive dans une seule ville. Quand ça arrive dans plusieurs villes, ça devient un fait de société, et donc du coup, les pouvoirs publics doivent s'en emparer. Il n'est pas normal que les Français qui respectent les règles, qui payent leurs impôts et qui contribuent au bien-être du pays, rendent chez eux la peur et la boule au ventre. Et je pense au dernier témoignage que vous avez diffusé, d'une personne qui dit on va attendre 6 à 8 mois en restant chez nous le temps que ça se tasse. Je pense que le sujet essentiel, c'est comment on fait pour reprendre les territoires perdus de la République. Moi, j'ai un plan qui est plutôt radical, je l'admets, qui repose sur 3 étapes. Reconquête, destruction, reconstruction. Reconquête, je pense qu'il faut déclarer un état d'urgence au niveau local, comme l'a fait François Hollande après les attentats du 13 novembre, pour lancer des perquisitions administratives, arrêter les fautifs, saisir toutes les armes et aller au-delà du droit commun qui va nous permettre d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus efficacement et de ce que j'appelle nettoyer les territoires perdus de la République et nettoyer les cités. Et ensuite, après, on opère ce qu'on appelle la destruction. Ça veut dire qu'à par rapport à la loi SRU, par rapport à tous les ghettos qu'on a formés, on pète tout. Parce qu'en plus, c'est moche. Et en plus, ça ne permet pas aux habitants de vivre dans la dignité par rapport à leur travail, par rapport à ce qu'ils rapportent au pays. Je pense qu'on ne peut pas laisser vivre dans ces conditions. Donc du coup, on pète tout. Et ensuite, après, si par cas, on s'arrête uniquement à la destruction, on arrive comme ce qu'on appelle en Irak et en Afghanistan, ce qu'ont fait les Américains. Donc ensuite, on a un sujet qui s'appelle la reconstruction. Comment on fait pour reconstruire ? Il y a un premier volet qui est la présence de l'État. Et ensuite, après, il faut trouver un modèle qui est attractif. Parce que là, dans votre documentaire, vous l'avez très bien rappelé, c'est en fait une partie de ces trafics, une partie de ces guerres se joue sur une question de trafic de drogue. Et donc du coup, ce qui se joue, c'est comment on fait pour trouver un modèle qui est plus attractif que le modèle de trafic de drogue. Donc d'une part, il faut couler le trafic de drogue en mettant un grand plan comme ce qu'ont fait les États-Unis contre la mafia au XXe siècle. Et ensuite, on mène une lutte contre eux. Et ensuite, après, on propose un boulot qui est attractif, qui repose sur l'attractivité de nos moyens. Est-ce qu'on ne leur permet pas d'avoir des possibilités, notamment en termes méritocratiques ? Et donc, ce qui se joue, et notre principal combat, c'est ensuite, pour les plus jeunes générations, c'est l'école. C'est-à-dire qu'il faut créer des internats d'excellence pour sortir les jeunes de ces quartiers, pour leur permettre d'étudier, de goûter la méritocratie française. Lorsqu'ils goûteront à l'effort, la possibilité méritocratique qui seront éduqués par les valeurs françaises, peut-être qu'ils ne plongeront pas sous la loi des gangs ou sous la loi des caïds.
En attendant le plan de William T, qui est apparemment bien, bien ficelé, Jonathan Sisko, que fait-on ? Que fait la population ? Que font ces gens qui habitent à Noisy-le-Sec ?
Malheureusement, le constat, c'est un constat d'échec des autorités, mais c'est un constat de désarroi. Le policier dise à cet habitant, ailleurs c'est déjà arrivé, attendez 6 ou 8 mois cloîtrés chez vous, voilà ce qu'on fait aujourd'hui, voilà où on en est réduit aujourd'hui, parce qu'il n'y a peut-être pas suffisamment de moyens financiers, mais il n'y a surtout aussi pas de moyens humains, et on se demande aussi où est la volonté politique de ces... bien sûr que les responsables locaux vous diront c'est scandaleux, la République n'a plus le droit de citer, etc., etc. Mais concrètement, il ne se passe rien ou pas grand-chose. Donc je crois qu'il y a une réelle désolation et on ne peut que le constater pour le moment. Et ce qui est très inquiétant, même si votre programme est très séduisant, je crois qu'il y a malheureusement un constat d'échec qui va impliquer plusieurs générations. Et il n'y a pas que les territoires perdus, il y a des générations perdues. Et ça, il faut le reconnaître aussi.
On marque une pause dans 90 minutes info. On se retrouve avec nos invités dans quelques instants. Prochain point sur l'actualité. À tout de suite. 90 minutes info sur CNews. Les débats continuent avec nos invités dans quelques instants. Mais d'abord, l'actualité avec vous, Arthur Muriau.
Face à la hausse des prix de l'énergie, le bouclier tarifaire sera prolongé en 2023. Cette annonce a été faite par le ministre délégué au budget, Gabriel Attal. Il estime que sans cette mesure, les tarifs du gaz et de l'électricité seraient d'au moins 100% supérieurs l'année prochaine, soit une hausse de 120 euros en moyenne par mois et par ménage. Gabriel Attal souligne aussi que sans les mesures décidées par le gouvernement, l'inflation aurait 3 points de plus. Depuis le 1er septembre, le stationnement est désormais payant pour les deux roues à moteur thermique dans la capitale. La Fédération française des motards en colère de Paris et de la Petite Couronne ont lancé un appel à la mobilisation. Ils donnent rendez-vous aux manifestants place de l'Hôtel de Ville, sous les fenêtres de la maire, Anne Hidalgo. Les organisateurs espèrent qu'elle cédera et reviendra sur cette mesure. Deuxième tentative de lancement pour la méga-fusée de la NASA dans le cadre du programme Artemis à 20h17, heure française. Elle devrait prendre son envol. En raison d'un problème technique, son décollage initialement prévu en début de semaine avait dû être annulé. Cette première mission test est non habitée et la première étape qui devrait permettre d'ici 2024-2025 de renvoyer l'homme sur la Lune. Nous avons probablement assisté au dernier match de Serena Williams. La joueuse de tennis américaine tire sa révérence après avoir été éliminée au troisième tour de l'US Open. Sa carrière a été historique, 23 titres du Grand Chelem. Mais la tenniswoman laisse tout de même une porte ouverte à la question « Allez-vous revenir sur votre décision ?» Elle a répondu, je cite, « Je ne pense pas, mais on ne sait jamais. »
Merci Arthur. Tout à l'heure, une demi-heure pour le prochain point sur l'actualité sur CNews. En 90 minutes info, on va évoquer maintenant avec nos invités ce plan de sobriété énergétique. Avec la question que tous les Français se posent, y aura-t-il des coupures d'électricité cet hiver? C'est vrai qu'on s'interroge. Le gouvernement se veut rassurant alors que le nucléaire représente tout de même 70% de notre approvisionnement en électricité. Entre vétusté, problèmes d'entretien ou corrosion, les centrales françaises sont très loin de tourner à plein régime. Tour d'horizon avec Sybille Delettre et on en parle ensuite.
Au total, c'est plus de la moitié du parc nucléaire français qui est à l'arrêt. 32 réacteurs ne sont pas en service sur les 56 présents sur le territoire. À cela, plusieurs raisons. Tout d'abord, certains sont en maintenance. À Gravelines, par exemple, 5 réacteurs sur les 6 de la centrale sont stoppés. La plupart du temps, il s'agit de recharger le combustible. L'opération dure quelques semaines. Il peut aussi y avoir des réparations à cause de l'ancienneté des centrales. Mais plus inquiétant, 12 réacteurs sont hors service à cause d'un problème de corrosion détecté sur un système de sécurité. Ce mécanisme permet de refroidir rapidement la centrale en cas d'accident. C'est le cas de 3 des réacteurs de la centrale de Cattenom, à l'est du pays. Un problème qui va pousser EDF, exploitant des centrales françaises, à faire des révisions à moyen terme dans l'ensemble des installations, et ce d'ici 2025, et donc occasionner d'autres arrêts. Face à ces travaux d'entretien qui se multiplient, le patron d'EDF a alerté il y a quelques jours d'une difficulté supplémentaire, le manque de personnel qualifié. Mais le gouvernement l'a assuré hier à la sortie du Conseil national de défense, tous les réacteurs devraient être en marche cet hiver.
Jonathan Sisko, est-ce que vous tremblez à l'idée que vous pourriez avoir des coupures d'électricité cet hiver à la maison ?
Ah ben non, puisqu'il y a eu un conseil de défense qui nous a appris que l'hiver se passerait au chaud. Je suis hyper rassuré, moi, depuis deux jours.
Avec notamment les réserves de gaz à 92%. Mais il y a l'électricité.
J'ai eu très peur, mais là, depuis deux jours...
Là, ça va, vous êtes rassuré, ça va beaucoup mieux.
Ça va beaucoup mieux. J'éteins quand même la lumière avant de me coucher quand je sors pour faire des économies d'énergie, évidemment. Mais je ne suis pas rassuré sur le discours politique qui fluctue selon les nécessités du moment. Nous avons aujourd'hui à la tête de l'État des gens qui nous disent « notre avenir énergétique passe et uniquement passera par le nucléaire » et ce sont les mêmes, exactement les mêmes, qui, il y a encore deux ans, nous disaient tout le contraire. C'est un peu comme si nous avions des pompiers pyromanes, si vous voulez, qui vont sûrement éteindre l'incendie, c'est vrai, et tant mieux que nous puissions passer l'hiver au chaud et l'été prochain au frais. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a une perte totale de crédit dans cette parole politique. Et les tours de passe-passe, ça peut marcher dans certains domaines. En matière du nucléaire, je doute que ça puisse passer. J'entends par là que quand on a des choses aussi sensibles, aussi sérieuses et qui s'inscrivent dans un temps long, tel que le nucléaire, remettre des moteurs, des centrales en marche lorsqu'elles sont à l'arrêt, ça ne se fait pas en deux mois. Et si ça se fait en deux mois, c'est pas très sérieux. Donc j'espère que toutes les mesures qui nous ont été annoncées, évidemment, j'appelle de mes voeux qu'elle puisse se réaliser, mais j'ai du mal à comprendre comment, dans tous les cas, votre reportage le montrait très bien, toutes les centrales n'ont pas les mêmes, tous les réacteurs qui sont à l'arrêt ne rencontrent pas les mêmes difficultés, mais pour arriver au résultat annoncé par le gouvernement il y a deux jours, j'ai du mal à comprendre comment ça va marcher.
D'autant, William T, que ce sont aussi les Français qui passent à la caisse. On parlera des entreprises tout à l'heure, avec les efforts de bon sens aussi qui sont à faire. Ça, c'est incontestable. Mais les fournisseurs d'énergie sont en train de gonfler la facture.
Oui, mais
ça, c'est impacté directement sur le pouvoir d'achat de la population.
Moi, je pense que le gouvernement a pris la bonne décision en prolongeant le bouclier tarifaire, parce que contrairement à ce qui est dit régulièrement, c'est pas la réforme des retraites ou la réforme d'assurance chômage qui fera tomber le gouvernement, mais la crise énergétique. pour deux raisons spécifiques. Parce que la crise énergétique, s'il y a des coupures de courant, eh ben les Français sentiront un sentiment d'inégalité parce que ce ne sera pas les mêmes territoires et les mêmes Français qui seront touchés par des éventuelles coupures de courant. C'est notamment les installations les moins bien dotées, donc évidemment en territoires ruraux et territoires périphériques plutôt que dans les territoires métropolitains. La deuxième raison, c'est que la consommation énergétique, on le sait depuis les deux chocs pétroliers, est intimement liée à notre consommation, à la croissance économique, pardon, est intimement liée à la consommation énergétique. Donc ça veut dire que si on baisse notre consommation d'énergie, eh ben on arrive implicitement en période de récession et on, donc du coup en période de décroissance. Et je pense que c'est les deux sujets qui peuvent faire péter et exploser le gouvernement. Et je pense qu'ils ont raison de mettre le paquet dessus. Par contre, il faut dire la vérité. C'est-à-dire qu'en fait, on a augmenté les prix de l'énergie, mais les Français ne paient pas le prix réel. C'est-à-dire qu'on est intégré dans ce qu'on appelle le marché européen de l'électricité. Et
oui, mais la facture, c'est plus 50%, non. C'est les fournisseurs d'énergie. Il y a témoignages par dizaines.
Justement, il faut dire la vérité sur le marché européen de l'électricité. Je ne parle pas du gaz, je ne parle pas du pétrole, de l'électricité.
Non, bien sûr, mais je parle de l'électricité aussi.
On est passé de 80, et votre chaîne l'a régulièrement rappelé, de 80 euros par mégawattheure à 1000 euros le mégawattheure. Et pourquoi c'est fait? Parce qu'en fait, sous l'influence de l'Allemagne, qui sont les plus grands terroristes en matière énergétique, sous l'influence des Verts allemands, eh ben en fait, on a indexé le prix de l'électricité sur le prix du gaz, qui a multiplié notre prix par 10. Moi, j'ai regardé, j'ai demandé à quelqu'un de mon équipe de m'envoyer. Le vieux nucléaire, le coût réel de production est à 45 euros par mégawattheure. Le nouveau nucléaire est entre 110 et 120 euros par mégawattheure de coût de production. Et enfin, l'éolien est entre 120 et 140 mégawattheure. Et actuellement, on paierait plus de 1000 euros à cause des Allemands. Pourquoi est-ce que les Français devraient payer les conséquences des Verts allemands? On a déjà les Verts à supporter chez nous, comme Sandrine Rousseau. Pourquoi est-ce qu'on supporterait les décisions des Verts allemands? C'est un non-sens complet. Donc je pense qu'une des prochaines décisions, et Emmanuel Macron en avait parlé comme Bruno Le Maire, il faut arrêter à minima l'indexation du prix de l'électricité sur le prix du gaz. Et si par cas l'Allemagne refuse et la Commission européenne refuse, on suspend notre participation au marché européen de l'électricité.
Vous parliez du coût du bouclier tarifaire maintenant. Par le gouvernement, il est quand même évalué à 24 milliards d'euros.
Oui, mais c'est rentable.
Ce qui est une somme
C'est rentable parce que si par cas les Français baissent leur consommation énergétique, admettons, on baisse de 10%. Intimement, implicitement, on baissera notre croissance économique d'un certain nombre de points. C'est ce qui s'est passé pendant les deux chocs pétroliers de 73 à 79, quand on avait dit, sous des effets de sobriété énergétique, en fait, la sobriété énergétique et toutes les politiques de non-consommation d'énergie conduit implicitement à une politique de décroissance. Et je pense que ça, là, il faut faire attention entre une politique de sobriété, c'est-à-dire éviter le gaspillage, et une politique qui nous mènerait vers la décroissance. Non, oui à la sobriété, non à la décroissance qui nous dirait au chaos pendant 10, 20 à 30 ans.
Alors oui à la sobriété, Jean-Michel Fauvergue, le bon sens tout simplement. Enfin, il y a des choses qui paraissent tellement évidentes, mais qui ne sont pas appliquées ou qui n'étaient plus appliquées. Au quotidien, chez nous, à la maison, ou dans les entreprises.
Chez les commerces, etc. Ouais. Bien évidemment qu'il y a des choses de bon sens à faire. Qui ont commencé d'ailleurs, fermer la porte dans les commerces qui sont climatisés, etc. Un certain nombre de choses.
Pardonnez-moi, mais ça ne suffit, vous faites allusion, Jean-Michel Fauvergue, à cette mesure de fermer la porte quand c'est climatisé, mais ça fait perdre des clients au commerce.
Oui.
C'est-à-dire que quand la porte est fermée, les gens ne rentrent pas.
Oui.
C'est psychologique. C'est appliqué, beaucoup de commerces le disent. Oui, cette mesure-là nous fait perdre du chiffre d'affaires.
Mais à un certain moment, puisque tout le monde est à la même enseigne,
il faut prendre des décisions.
Ça devrait se réguler et prendre des décisions, mais ces décisions ne seront pas suffisantes, il faut le savoir. Même si tout le monde fait des efforts, elles ne seront pas suffisantes. Et le bouclier énergétique est maintenu, c'est évidemment une bonne décision. En réalité, c'est... Du quoi qu'il en coûte, sans le dire. C'est du quoi qu'il en coûte sur d'ailleurs, vous l'avez dit, William, sur une bonne chose qui fait que, en maintenant un prix énergétique stable, on va pouvoir non seulement faire en sorte que la plupart des Français, en particulier les moins riches, ne subissent pas cette augmentation de plein fouet, qui est une augmentation terrible. Si vous voyez ce que payent en énergie les Espagnols et d'autres pays de ce type-là, mais aussi ça va protéger nos entreprises et on a besoin de continuer à produire. On a déjà des entreprises qui sont dans le vert, par exemple, qui qui menacent de mettre la clé sous la porte. Donc il faut effectivement les protéger de cette manière-là. Là, on a un bouclier tarifaire, c'est une bonne nouvelle que ça. Alors effectivement, c'est des nouvelles qui fluctuent. Un jour, on est rassuré, l'autre en l'est moins. Mais parce que la situation fluctue, elle aussi. Juste un mot aussi, et William l'a dit, sur le rôle de l'Allemagne. L'Allemagne, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Voilà un pays et un gouvernement qui donnait des leçons à l'Europe entière il y a quelque temps de ça. Et c'est un pays qui a fauté. Il a fauté par sa politique énergétique en arrêtant ses centrales nucléaires et effectivement en s'assujettissant au vert et en rouvrant les centrales à charbon. Et aujourd'hui, c'est un pays qui dépend énormément du gaz, on le sait, du gaz russe. Et il a besoin maintenant que d'autres pays européens l'aident sur son gaz. Donc c'est plutôt une bonne chose pour la modestie allemande. Je pense que ça c'est quelque chose d'important. Et c'est un pays qui a fauté aussi, mais ça c'est un autre sujet, sur l'armée, sur sa défense. Il est en train de revenir là-dessus. On voit qu'on est dans un univers où la guerre s'invite en Europe. L'Allemagne comptait sur le bouclier. L'Allemagne comptait sur tout le monde, sauf elle, dans ces secteurs-là, sur le bouclier américain en termes de défense, sur l'énergie de la Russie qu'elle pensait stable, et ils se sont plantés sur toute la ligne. Et on est en train de payer les pots cassés des Allemands aujourd'hui. Des Allemands.
On jette un coup d'œil pour accompagner notre propos à ce sondage Odoxa, le Figaro, sur la vulnérabilité de la France et ce qu'en pense la population. Diriez-vous que la France est un pays vulnérable en matière d'énergie? 84%. Tout de même, alors c'est peut-être le moment, l'instant, comme vous trembliez il y a quelques jours, vous aussi, Jonathan Siskou, au moment où les Français ont été interrogés, ils étaient peut-être dans votre situation, ils n'étaient pas rassurés.
Je suis assez surpris par ce chiffre, je vous avoue. Mais on peut aussi noter par rapport à cette situation que les clients de l'EDF bénéficient de ce bouclier tarifaire dont ne bénéficient pas tous ceux qui, depuis quelques années, qui a eu cette libéralisation du marché de l'énergie, ont pu aller chez d'autres opérateurs en matière d'électricité ou de gaz, et eux voient leurs prix et leurs factures exploser ces derniers jours. L'EDF, qui est en plus désormais nationalisé complètement, on peut imaginer à juste titre qu'une politique qui permettra ce bouclier tarifaire, permettra à tous les abonnés de l'EDF, et qui compte de nouveaux abonnés, il y a même trop de demandes par les temps qui courent, permettre au plus grand nombre d'avoir des factures mesurées. La vulnérabilité, si on s'en tient au nucléaire, on pourrait inverser, à mon sens, le sondage que vous venez de montrer. La France, si elle entretient son parc nucléaire, si elle le modernise, comme il faudrait le faire, parce que là aussi, on voit avec les nouvelles générations de nucléaires, de centrales qui pataugent, qui patinent et qui nous coûtent des milliards d'ailleurs par retard de livraison, que ce soit ici ou à l'étranger, la France pourrait parfaitement être totalement indépendante en matière énergétique, comme on sait l'être quand même sur d'autres domaines. On pourrait l'être en matière d'énergie. Donc, et on pourrait, je vous le dis, vraiment inverser complètement ce sondage.
Alors, qui seront les plus impactés, en tout cas, dans cet effort qui est fait, ce bouclier tarifaire et cette politique qui est menée pour éviter qu'il y ait des coupures d'électricité, parce que c'est de ça dont on parle, notamment cet hiver, la population, les Français ou les entreprises? Éléments de réponse avec Agnès Pannier-Runacher, la ministre.
Il faut avoir des actions volontaires et puis des actions contraignantes en cas de difficultés qui ne seraient pas anticipées. Et donc, nous poursuivrons les discussions avec les entreprises. Mais vous voyez bien que, finalement, c'est un appel à la responsabilité collective. Plus les entreprises, plus les collectivités locales, plus l'État, plus les administrations, plus les ministères sauront gérer à bon escient leur chauffage et leur électricité et leur gaz, moins nous aurons à recourir à des mesures contraignantes, qui soit dans le temps ou ponctuel.
William T., la ministre de la Transition écologique, là, défend tout simplement son plan de sobriété. ce qui est bien normal, avec un effort commun à faire de la part de la population, mais également des entreprises qui consomment beaucoup plus.
Non, en fait, je vais essayer de synthétiser ce qu'elle dit en 9 langues, mais je l'ai synthétisé normalement. En fait, ce qui se passe, c'est que normalement, on a assez d'énergie pour cet hiver de octobre à mars. La difficulté, c'est que le gouvernement n'arrive pas à savoir quelle température il fera, et c'est tout à fait normal. Ouais. Il n'est pas spécialisé.
Avec le réchauffement climatique.
En fait, tout change.
On ne peut pas tout miser là-dessus, évidemment.
On ne sait pas quelle sera la température. Si on a un hiver doux, on passe l'hiver tranquillement, on aura assez d'électricité, de gaz et de pétrole. Si par contre, on a un hiver qui est plus rugueux, et donc du coup, une consommation énergétique qui soit plus élevée, là, on aura des pics de tension et il y aura des coupures momentanées. Et c'est pour ça que le gouvernement prévoit, normalement, dans le pire des scénarios, vraisemblablement, on devra faire un effort de rationnement de 10%. Et c'est ce que prévoit Agnès Pannier-Runacher, dans la mesure où si par cas, on a un hiver rugueux, et bien dans ce cas-là, on demandera un rationnement aux entreprises et aux ménages de 10%. Mais je pense que le sujet essentiel, ce n'est pas celui du rationnement, c'est celui de la production. Et c'est là où le gouvernement a une erreur, notamment incarnée par la première ministre Elisabeth Borne. Parce que qui a annoncé la fermeture de Fessenheim et qui a annoncé et qui s'est mis sous le diktat et le joug des Verts, notamment en fermant Fessenheim pour des raisons politiques et idéologiques qui ont conduit au déclin de la France. Parce que quand vous regardez la situation française, les Français, notamment 84% selon votre sondage, disent qu'ils se sentent vulnérables par rapport à la souveraineté énergétique. Mais quand on prend le nucléaire français, de 2000 à 2020, on était exportateur net en matière d'électricité. On était peu dépendant du gaz et du pétrole et en plus, grâce à notre armée, notre politique étrangère, on s'était assuré des alliés, notamment Mohamed Ben Salman en Arabie Saoudite, le Qatar et les pays du Golfe et les pays du Maghreb qui nous assuraient notre indépendance et notre souveraineté énergétique. Et qui a conduit et qui a tué cette politique uniquement pour faire plaisir à certains fous, notamment les Verts. Je pense que le premier sujet, oui, les Français attendent feront de la sobriété énergétique parce qu'ils l'ont montré pour la période du Covid. Ils sont responsables et ils sont solidaires. Mais peut-être qu'Elisabeth Borne, plutôt que de donner des leçons, parce que je vise elle spécifiquement, parce que c'est elle qui a fermé Fessenheim, devrait peut-être présenter des excuses sur le fait qu'on soit vulnérable énergétiquement.
Un petit mot de conclusion sur cette thématique, Jean-Michel Fauvergue, parce que j'ai envie de parler aussi dans quelques instants de la manifestation des motards qui sont en colère.
Oui, le nucléaire français, c'est une longue histoire. Les Verts se sont construits sur la lutte contre le nucléaire dans les années 74 avec la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Ils ont, avec cette lutte contre le nucléaire, ils ont tétanisé tous les gouvernements qui ont suivi après, tous les gouvernements. Il n'y en a pas un seul qui a lutté contre cette tendance-là, qui était une tendance folle de dire que le nucléaire, il fallait le fermer, c'était dangereux. Et donc, on a hérité de tout ça. Et il y a 2 ans de ça, le président de la République a mis à stopper, évidemment, après une évolution, il a stoppé ça. Et là, on est reparti, mais il faudra du temps pour travailler sur le nouveau nucléaire.
Toujours dans le cadre de l'économie et du pouvoir d'achat au quotidien pour les Français, cette manifestation aujourd'hui des motards en colère devant l'hôtel de ville de Paris contre le stationnement payant des 2 roues motorisées dans la capitale. Ce sont les véhicules thermiques et non pas les véhicules électriques. C'est sans doute la fin d'une époque gracieuse, donc, puisque ces 2 roues motorisées doivent maintenant payer assez cher pour stationner dans les rues de Paris. On va écouter quelques manifestants, quelques motards et ensuite on sera en duplex avec Philippe Monneret.
J'ai besoin de me déplacer 3 ou 4 fois par jour sur Paris. Donc 12 euros jour x 20, on y est, 240 euros. Hein. Donc 240 euros, je suis désolé, c'est un budget qui est énorme.
Je prenais ma moto pour aller travailler, chose que je ne fais plus depuis le 1er septembre. Donc je suis dégoûtée, parce qu'il va falloir que j'aille me tasser dans les transports en commun, dans le RER, dans le métro.
Ce que je ne comprends pas surtout, c'est pas faire de la politique, mais le scooter électrique ou la bécane électrique, elle ne paye pas, et non opérée. Et ma bécane, si j'enlève les 2 lettres, elle est toute récente, hein, elle a 2 mois.
En duplex avec nous, Philippe Monneret, qui est patron de plusieurs moto-écoles et pilote de haut niveau. Bonjour Philippe Monneret, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous avez le sentiment que les motards ou que les conducteurs de roues sont discriminés à Paris ?
Ils ont toujours été discriminés parce que c'est quand même un avantage de rouler en 2 roues dans Paris et ça n'a jamais été reconnu par la municipalité. On a tout fait pour pas qu'on puisse remonter facilement les fils. À un moment donné, on avait demandé les couloirs de bus, ça nous a été refusé. Donc on a vraiment favorisé le vélo, la trottinette, mais le vrai 2 roues motorisé. Il y a des gens qui viennent de banlieue, hein, qui ont besoin de travailler. Là, il y a des témoignages, hein, qui vous disent, c'est pas des gens qui ont un gros pouvoir d'achat. C'est aussi un engin de plaisir le week-end et qui devient un engin pratique la semaine. Et là, moi je trouve que c'est quand même quelque chose qui n'est pas normal parce que le deux roues, ça pollue peu. Hein, on a vraiment rattrapé le retard avec les normes Euro 5. C'est facile à garer, donc ça fluidifie le trafic. Et là, on va le taxer. À un moment donné, on n'arrête pas de parler de pouvoir d'achat. Mais il y a une incohérence quand même dans cette réflexion.
Quelles peuvent être les répercussions d'ailleurs pour l'économie, l'écosystème du deux-roues ? Philippe Monneret, est-ce que vous craignez que ces mesures, alors cette mesure en tout cas, qui est peut-être plus écologique qu'économique, s'applique également dans d'autres villes ?
Oui, mais pour revenir écologique, oui, vous savez, on l'a fait, nous on a ouvert la première moto-école 100% électrique pour suivre un peu l'évolution de la société, mais il ne faut pas aller trop vite. C'est quelque chose qui est à marche forcée, à mon avis, parce qu'on n'a pas beaucoup de constructeurs. Les gros constructeurs, déjà, n'ont pas vraiment de véhicules électriques. Ou alors, vous avez BMW, par exemple, qui a un véhicule électrique à 14 000 euros. Qui peut s'acheter ça ? Voilà. Bien sûr, on va y penser dans d'autres villes, parce que je pense que c'est aussi pas mal pour... alors, c'est un peu basique ce que je vais dire, mais pour rapporter de l'argent. On sait que c'est une ville très endettée, Paris. Et voilà, donc non, je pense qu'il faut que les moteurs en colère continuent à se mobiliser. Ça a toujours été une force de leur part. Et il faut essayer de faire plier la mairie de Paris parce que c'est pas normal. Même si, vous savez, moi, je viens de vous le dire, on a ouvert les moto-écoles électriques, on est dans le sens de l'évolution, mais on n'est pas prêt. Le marché de la moto, le monde de la moto n'est pas prêt, ça va trop vite. Et puis, par exemple, les concessionnaires, regardez, qu'est-ce qui va se passer pour tous les concessionnaires, une avenue comme l'avenue dans l'armée, par exemple. Il y a des dizaines et des dizaines de scooters thermiques garés devant, à vendre, etc. Comment ça va se passer là? Je trouve que c'est un peu n'importe quoi quand on parle de ça et à la fois de pouvoir d'achat.
Merci Philippe André, merci d'être intervenu sur l'antenne de CNews. On va continuer à débattre évidemment avec nos invités sur ce sujet parce que, en effet, on a l'impression, Jonathan Siscou, que cela touche une catégorie des deux roues, ce sont les véhicules thermiques et pas les véhicules électriques. Donc sans doute une invitation à investir sur l'électrique pour des raisons écologiques qui restent peut-être encore à déterminer, encore une fois, avec l'histoire des batteries. Et pas uniquement, comme le disait Philippe Monneret, la possibilité de récupérer un peu d'argent pour la municipalité de Paris. Même si en effet, c'est de l'argent sonnant et trébuchant qui rentre dans les caisses.
C'est d'abord ça. Anne Hidalgo a l'insigne honneur d'être... peut-être le seul responsable politique à être à côté de la plaque surtout et de rater tout ce qu'elle entreprend. Sa gestion de Paris est lamentable, calamiteuse. Elle le poursuit en cela, en aggravant la politique de la Noé. La droite avait donné les clés de la capitale à la gauche en 2001 avec des caisses pleines. La ville est surendettée à hauteur de plus de 7 voire 8 milliards aujourd'hui et ça ne cesse d'augmenter. C'est du jamais vu dans l'histoire de la capitale. Donc il y a un vrai problème d'endettement de la ville aujourd'hui. Donc oui, la ville de Paris est exsangue et cherche de l'argent partout. Ça, c'est un constat. Et donc tout le monde paie dans tous les domaines. Donc pourquoi pas les motards ? Et c'est là où je m'inscris un peu en faux, dans la mesure où nous sommes face à ce problème où les piétons, les commerçants, tout le monde paie. Dès qu'il y a un empiétement sur l'espace public, vous êtes amené à devoir payer quelque chose. Il y a plein de gens qui paient des fortunes aussi pour garer leur voiture. Les résidents, je note aussi que les résidents ont des forfaits qui ramènent, d'après ce que j'ai compris, à 75 centimes l'heure de stationnement et non pas 2-3 euros, ce qui paraît excessif. Mais quand vous voyez le prix des parkings pour voitures dans Paris, c'est délirant, ça peut être parfois 10 fois plus. Il y a aussi ce problème qu'il faut réguler ce trafic moto parce qu'il y a de plus en plus de motos, ça correspond à des nuisances sonores, je ne parle même pas des véhicules électriques, du gros problème causé par les vélos et les trottinettes. Mais si on s'en tient à ces motos, c'est des nuisances sonores, c'est un empiétement sur l'espace public parce que qu'il y ait des parkings, des places qui leur soient réservées, c'est une chose, mais vous ne comptez pas le nombre de trottoirs dans Paris où parfois vous ne pouvez plus traverser une rue parce que les motos se mettent en... parce qu'elles n'ont pas de place. Donc il faut réguler. S'il faut réguler en taxant, malheureusement, ça passera par là.
Est-ce que c'est un phénomène avant tout parisien, Jean-Michel Fauvergue, ou est-ce que cela peut, comme je le demandais tout à l'heure à Philippe Monneret, s'étendre aux autres grandes villes de France ?
Et moi, je suis particulièrement impacté, puisque je suis motard, et je viens à CNews en particulier avec
Donc vous avez payé votre parking là avant de venir ?
Avec une... Tout à fait, oui. Mais on n'est pas sur Paris.
6 euros les deux heures, hein, c'est
pas,
ça ?
On n'est pas sur Paris. Hein.
Ah, on n'est pas sur Paris, c'est vrai. On n'est pas sur... en région parisienne, absolument. Tout ouais. à côté.
Nous ne sommes pas là en
de
Paris.
De l'autre côté de la Seine.
Intramuros. Jusqu'à présent, on s'en sort bien. Non, mais ce que je voulais quand même préciser, bien qu'étant à la fois motard, mais aussi j'ai une voiture, il m'arrive d'être au volant de ma voiture, c'est qu'effectivement, il y a moi, payer une place de parking pour une moto, ça me semble, par rapport à un automobiliste, honnête. Je veux dire, il n'y a pas de raison, jusqu'à présent, on en a profité, il n'y a pas de raison qu'on ne paye pas une place moto. Mais pour autant la problématique, c'est que des places moto, il n'y en a pas sur Paris. Mmh. Et donc, vous êtes obligé de vous mettre sur de l'emplacement. Si vous ne voulez pas vous faire enlever la moto, ce qui m'est arrivé, il faut vous mettre sur des places voitures. Donc, vous gênez les voitures. Et puis, vous payez une fortune. Le monsieur l'a dit. Tous les arguments qu'il en donnait, ça m'a un peu choqué parce que ça faisait groupe d'influence, etc. Mais l'argument du prix, c'est vrai. Je veux dire, on paye une moto... paye quasiment, pas tout à fait, mais aussi cher qu'un véhicule. Or, sur une place de véhicule, vous pouvez mettre 4 motos, donc il y a quelque chose qui est injuste là-dessus. Mais il faut travailler. Moi, je veux bien qu'Anne Hidalgo et son conseil municipal décident de ça, mais ils n'ont pas travaillé sur les places motos, ils n'ont pas travaillé sur un certain nombre de choses.
Comme sur le reste.
Non, et où il y a une dichotomie, en tout cas quelque chose qu'on ne saisit pas véritablement, William T., c'est que les véhicules thermiques... Donc les deux roues, les moteurs traditionnels doivent payer le parking, mais pas les motos électriques.
Ah non, mais ça c'est tout le génie d'Anne Hidalgo. Moi je pense qu'il y a deux décisions à prendre le plus rapidement possible de la part du gouvernement. C'est mettre Anne Hidalgo à la mairie de Paris sous tutelle du préfet. C'est le premier élément. Et deuxième élément, c'est de réformer la loi électorale pour que des personnes qui ne représentent pas les Parisiens puissent posséder les clés de la ville de Paris. Parce que Paris c'est un peu la France aussi, parce que c'est l'image de la France et on ne peut pas laisser la ville et notre capitale dans une situation pareille. Mais je vais reprendre à votre question. Alors, Anne Hidalgo dit qu'il faut favoriser l'électrique. Les prix de l'électrique ont explosé avec la crise énergétique. C'est une véritable génie. Ensuite, après, elle dit, deuxième point, qu'il faut favoriser la transition pour que les personnes passent à des véhicules électriques. C'est vrai qu'en ce moment, on n'a pas de problème de pouvoir d'achat. Les Français croulent sous l'argent magique. Et donc, du coup, ils ont tellement d'argent pour Noël. Ils n'ont pas de problème de fin de mois. Donc, du coup, ils peuvent tout dépenser.
La fin de l'abondance.
Ah, ils peuvent tout dépenser à la fin de la semaine, à la fin du mois. Ils peuvent directement s'acheter une moto dernier cri et le dernier véhicule électrique qui correspond. Et une fois qu'ils auront acheté ce véhicule électrique, Anne Hidalgo, une fois qu'elle verra les prix de l'électrique grimper encore plus, elle va dire « Ah bah maintenant l'électrique est trop cher ». Et donc du coup, il faut passer sur un nouveau méthode de transport.
Vélo.
Vélo ou transport en commun. Et là, vous allez arriver à la question de est-ce que les transports en commun sont propres ? Est-ce que les transports en commun sont sûrs à Paris ?
Et polluent.
Et polluent. Et donc, du coup, il y a tout cet enjeu-là. Et donc, en fait, le problème d'Anne Hidalgo, c'est qu'en fait, moi, je pense que c'est un peu l'inverse de Midas. C'est-à-dire que Midas, tout ce qui se touchait se transformait en or. Et tout ce que touche Anne Hidalgo se transforme en plomb. Elle foire un peu tout. Elle a foiré les finances publiques de la ville de Paris. La ville est sale. Moi, j'ai des collègues et de la famille qui viennent de l'étranger qui me disent « Paris, c'est pas possible ». On pensait que c'était la ville des Lumières, la ville de l'amour. Et au final, on arrive, c'est sale, on a peur dans la rue. On est éventuellement se fait agresser, on se fait voler.
Des rats.
Non, mais c'est sur n'importe quoi. Et ensuite, on a toute cette situation alors qu'on va exposer notre ville dans 2 ans à la face du monde entier vis-à-vis des Jeux Olympiques. Non, il y a une décision importante à prendre. Je pense que c'est un intérêt de salut public. Il faut que le gouvernement ait le courage de mettre Anne Hidalgo sous tutelle. Je pense qu'il y a plein de raisons financières auxquelles la ville est en faillite. Donc le préfet peut mettre Anne Hidalgo sous tutelle. Je pense que c'est un impératif national. Et parce qu'il y a une question que vous avez posée qui est très intéressante, c'est est-ce que ça va s'étendre dans d'autres villes ?
Oui.
Malheureusement, à Nancy, ça commence à s'étendre. À Lille, ça risque de
s'étendre. Dans les villes aussi où il y a des maires verts, des maires écologistes.
Des maires écolos. À Lyon, ça va s'étendre. À Marseille, ça va s'étendre.
À Grenoble.
À Grenoble, ça s'étend déjà. À Bordeaux, ça s'étend déjà. Est-ce que les Français et les habitants de ces métropoles ont mérité des maires comme ça ? Non, je ne pense pas. Et donc l'État doit agir. Je pense que le gouvernement avait pris une bonne décision, notamment en compressant avec la majorité LR sur les prix de l'essence, et Anne Hidalgo a tout cassé.
Ils les ont élus, ils n'ont pas mérité des maires comme ça.
On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants. D'autres débats endiablés à venir sur CNews dans 90 minutes info. À tout de suite. Une demi-heure de débat à venir encore dans 90 minutes info, mais d'abord un point sur l'actualité, Arthur Meurioux.
La nuit dernière, un incendie a ravagé un lieu de culte musulman à Rambouillet, dans les Yvelines. La police privilégie la piste criminelle. Plusieurs témoins affirment avoir vu des individus sortant de cette tente de prière avec un bidon. Quelques minutes plus tard, les flammes se propageaient. Une enquête a été ouverte pour incendie criminel ou destruction volontaire par moyen incendiaire. En un mois, le quartier de la Renardière à Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis a connu 3 fusillades. Face à ce fléau, les habitants n'en peuvent plus. Ils sont obligés de rester cloîtrés à leur domicile. Selon certains riverains, c'est un point de deal dans le quartier qui serait à l'origine de ces fusillades à répétition. Dans une vidéo publiée sur Instagram, l'actrice et militante Jane Fonda annonce être atteinte d'un cancer. L'américaine de 84 ans indique qu'elle est optimiste car 80% des personnes survivent à ce type de cancer. Toutefois, elle a adressé un message politique en soulignant qu'elle avait la chance d'avoir une assurance maladie. Elle déplore le fait que beaucoup d'Américains n'ont pas d'accès aux soins de qualité en raison de leur système de protection sociale.
La France. Oui. Et le point sur l'information, on revient dans une demi-heure maintenant sur CNews, bien sûr 90 minutes info avec nos invités William T, Jonathan Siscou et Jean-Michel Fauvergue. Et à présent, la triste histoire d'Océane. En juin dernier, cette jeune femme de 21 ans s'est donnée la mort quelques mois après avoir porté plainte pour viol. Ses parents dénoncent aujourd'hui une enquête restée au point mort et ce qui aurait anéanti leur fille, disent-ils. Elisa Lukavski nous donne d'abord tous les détails.
C'était l'affaire de Troyes pour la jeune femme originaire de Besançon qui avait déjà été violée lors du Nouvel An en 2017. Elle avait porté plainte pour cette affaire l'an passé. En janvier dernier, elle est victime d'une tentative de viol de la part, cette fois, de son maître d'alternance. Elle se rend à nouveau au commissariat. Et puis, il y a eu ce viol le 10 février 2022 de la part de celui qu'elle considérait comme son meilleur ami. Elle s'est confiée à ses parents.
J'ai déjà 2 affaires en cours. Je ne supporterai pas une 3e affaire, je ne supporterai pas une confrontation avec lui. On a vu sa descente aux enfers. Et début mai, elle allait mieux. Elle commençait un petit peu à plus sourire et tout. Elle nous dit, papa, maman, vous allez être fiers de moi, je suis d'accord d'aller porter plainte. Alors on était heureux, mais on s'est dit, chouette, enfin il va payer. Et malheureusement, elle a été au commissariat et elle est revenue, mais décomposée. Elle était encore plus dépressive que le lendemain du viol, je pense. Elle parlait plus.
Alors des analyses sont faites, mais la police dit à Océane que tant que les résultats ne seront pas tombés, eh bien le suspect ne pourra pas être auditionné. Cette nouvelle plainte, eh bien c'est le point de bascule. Derrière Océane, sombre, tentative de suicide, hospitalisation en psychiatrie, la jeune femme est au plus bas et elle met fin à ses jours le 4 juin dernier. On retrouve sur elle un mot avec inscrit « Je suis morte depuis le 10 février, vous n'auriez rien pu faire pour moi ». Aujourd'hui, ses parents se veulent être des lanceurs d'alerte sur les lenteurs et l'inertie de la justice, notamment dans cette affaire.
Vous n'auriez rien pu faire pour moi. Voilà le message qu'a laissé Océane. 3 plaintes pour viol ou tentative de viol. Alors on parle de lenteur de la justice, Jean-Michel Fauvergue, mais là on a affaire quand même à un dossier, à une affaire, à un profil particulièrement ténu, dense.
Jeune fille qui s'est violée 3 fois. Et l'élément déclenchant, c'est quand, si j'ai bien compris, c'est quand elle va au commissariat déposer plainte. C'est pourquoi, mais moi je l'imagine très bien. Cet élément déclenchant, pourquoi c'est un élément déclenchant ? Bien parce que une plainte pour viol, c'est très intrusif, très très intrusif. L'enquêteur a besoin de savoir beaucoup de choses. Et bien que les enquêteurs soient formés, dans la police comme dans la gendarmerie, et particulièrement spécialistes, si j'ose dire, de ce domaine-là, et prennent toutes les précautions importantes, c'est hyper intrusif, avec des questions qui sont très particulières.
On revit le viol, en fait, c'est ça qu'on est obligé de leur raconter.
Oui, mais on est obligé de donner des détails, il y a des prélèvements, il y a des... Et les prélèvements ensuite sont analysés, mettent un certain temps, etc. Et donc on peut repartir d'un dépôt de plainte comme ça qui peut durer des heures, on peut repartir complètement anéanti, c'est visiblement ce qui s'est passé. Mais... il y a, je m'empresse de le dire, il y a aussi à disposition, et de par les officiers de police judiciaire enquêteurs le proposent, il y a mise à disposition aussi d'un suivi psychologique assez rapide, parce que les enquêteurs sont conscients de ça. Dans ces affaires-là, comme dans les affaires avec les tout-petits, avec les enfants, c'est des affaires qui sont particulièrement difficiles. En fait, je pense que c'est ce qui a dû se passer, cette intrusion dans sur une fille fragile a précipité ça. Et c'est difficile d'éviter ça, sauf par un suivi psychologique important.
On va en parler dans
ce qui est le cas d'ailleurs.
Bien sûr, absolument, mais c'est la prise en charge des victimes aussi qui compte, et on écoutera un témoignage dans quelques instants. Mais Jonathan Siscou, le procureur de Besançon se défend de tout laxisme. Apparemment, la justice a fait son œuvre. Mais est-ce qu'on peut parler donc de lenteur de la justice, comme l'affirment les parents de cette victime?
Il y a en tout cas un temps de la justice qui est différent du temps du citoyen lambda, comme il y a une différence entre, et ça pose bien souvent des problèmes, un temps de la justice et le temps médiatique. Et bien souvent, bien trop souvent, effectivement, ce temps long est intolérable pour bon nombre de personnes qui se présentent devant la justice, bon nombre de victimes qui attendent une réponse à une condamnation de leur agresseur. Je découvre la situation effroyable de cette jeune femme avec votre reportage. Vraisemblablement, la police, elle, était pour son dernier viol. La police a fait son travail. Elle était dans l'attente des résultats, et l'explication qui lui a été donnée, ma foi, est terrible. Mais il n'y en a pas d'autre. Tant qu'on n'a pas les résultats des analyses, on ne peut pas engager une procédure. C'est là où il y a, pour le coup, si vous me permettez, mais encore une fois, c'est très délicat de parler comme ça d'une telle affaire. Ce qu'a vécu cette jeune femme est ahurissant, mais il y a une détresse psychologique qui découle de cette situation qui vraisemblablement n'a pas été correctement cernée en amont et suivie. Parce qu'arriver à cette fin-là, c'est qu'il y a eu un décrochage de ce point de vue-là, que ce soit dans la cellule familiale, amicale, psy, qui pouvait l'encadrer. Il y a eu un problème à ce niveau-là, parce que vraisemblablement, l'enchaînement des procédures, tout ce qu'il y a de plus légal, policière et judiciaire, elles ont fonctionné. Eux ont fonctionné.
Oui, bien sûr. Non, bien sûr.
Donc, vous voyez, je crois que c'est l'extrême fragilité de cette jeune femme qui est peut-être aussi à mettre dans la balance pour essayer de comprendre.
Ce qu'elle dit, d'ailleurs, le message qu'elle laisse, vous n'auriez pas pu me sauver, en creux, ça vient conforter effectivement votre propos. Vous vouliez ajouter quelque chose, Jean-Michel Fauvergue?
Oui, pour informer ceux qui nous écoutent, etc. Pourquoi on attend le résultat des tests ADN qu'il y avait sur les cheveux, il me semble? Pourquoi on attend ça? Pour pouvoir être sûr de confondre la personne qui est accusée. Soit les tests ADN, c'est pas lui, et puis l'affaire, il faut chercher ailleurs. Soit les tests ADN, c'est lui. Mais on est obligé de le confondre et d'attendre le résultat pour ensuite le convoquer ou aller le chercher et prendre sur PV ses déclarations. Et en général, au départ, ce qu'on a, je vais vous livrer un acte d'enquête, c'est ce qu'on appelle un PV de chic. En général, la personne nie, va chiquer, et ça n'est qu'après qu'on le confronte aux preuves ADN que l'on va avoir. Et ça, c'est absolument indispensable. Les enquêteurs doivent attendre ça, sinon ils vont mettre l'enquête en l'air et ça ne va pas marcher. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe en réalité.
On va écouter encore une fois le père d'Océane, justement concernant le suivi des victimes. Et on va pouvoir en débattre, et notamment je céderai la parole à William T. dans un instant.
Un enfant qui meurt d'un suicide suite à un viol, on se dit qu'il y a une injustice. Et alors peut-être que si la justice aurait été plus rapide, peut-être que ça aurait arrangé les choses, comme peut-être qu'on en serait au même stade. Hein. Je pense franchement que notre fils serait fier de ce qui se passe en ce moment. Et ça aboutit, ça serait génial. Ça aboutit pas, tant pis, mais on espère que au moins dénoncer que le système français, ça va pas bien. Voilà, ça va pas bien. Il y a un problème.
Y a-t-il un problème avec le système français sur un dossier, encore une fois, délicat? On marche vraiment sur des œufs, William T., mais véritablement, peut-on dire que là, dans ce cas-là, la justice est très lente? La démonstration de Jean-Michel Fauvergue est très claire aussi par rapport à l'enquête et tous les processus qui entrent en ligne de compte.
Il est difficile de se mettre à la place d'Océane qui a vécu un an.
Évidemment.
Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu deux points de bascule. Le moment où elle va voir les policiers et qu'elle dépose plainte, est-ce que les policiers font leur boulot? Et en fait, leur but, c'est de trouver une enquête. Et comme vous l'avez parfaitement rappelé, pour éviter tous les types de vice-procédures, pour éviter que l'enquête capote, ils sont obligés d'aller au plus vite. Et surtout, ils ont beaucoup d'affaires à régler. Et donc, du coup, on ne sait pas quelle est la personne qui est instruite, si la personne avait d'autres dossiers en même temps, et comment ça s'est déroulé la discussion. Ça, c'est le premier point. Sur la question de la justice, La justice essaye de faire au mieux. Bon, parfois, moi, je déplore un certain biais idéologique, mais elle essaye de faire de son mieux. Mais surtout, elle a un problème de moyens, pas uniquement de magistrats, mais également de greffiers, d'assistants judiciaires, pour aller beaucoup plus vite. Mais ces volets de police et justice ont une fonction de rendre justice pour un volet réparateur. Ça ne permet pas à la victime, donc à Océane, éventuellement de s'en sortir. Et nous, on a un autre levier sur lequel on doit se concentrer, c'est comment on fait. Parce qu'on a eu le débat, par exemple, sur la question de Fred. On se concentre davantage sur la réinsertion des délinquants que sur la réparation vis-à-vis de la victime et pour réinsérer la victime dans la société par rapport aux drames qu'elle vive, comme des viols, des rackets, des violences, etc. Et je pense que c'est un enjeu et c'est un angle mort de part de politique publique, c'est qu'en fait, on ne met pas assez d'argent et assez de moyens sur faire en sorte que la victime se réinsère dans la société. Et plutôt que de se concentrer davantage sur les délinquants, je pense que c'est ça que les personnes déplorent, c'est qu'on se concentre davantage sur les délinquants que sur les victimes. Et comment on fait pour rendre justice d'une part, en donnant les moyens à la police et à la justice d'agir, mais également pour réinsérer la personne dans la société après le drame qu'elle vit.
Et assister la justice aussi peut-être, qui fait son œuvre bien sûr, avec cette fameuse prise en charge des victimes. Écoutez Sandrine Boucher à ce sujet.
C'est effectivement la prise en charge de la victime qui est défaillante. Il faut que dans tous les cas de violence sexuelle ou conjugale, ces femmes soient orientées vers des centres de prise en charge psychotraumatique. Mais c'est évident et ça devrait être obligatoire. Ces femmes ont subi des choses tellement horribles qu'il faut qu'elles soient accompagnées. Il y a aussi un manque de communication entre les parquets et l'aide aux victimes. Donc du coup, c'est vrai qu'on peut se questionner sur l'accompagnement des victimes, mais s'ils ne sont pas informés par les parquets, qu'est-ce qu'ils peuvent faire derrière ?
La prise en charge des victimes, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure, Jean-Michel Fauvergue, c'est dès que la victime vient au commissariat, notamment pour déposer, mais c'est après, peut-être, c'est l'étape d'après qui est peut-être déterminante.
C'est exactement ça. Dès qu'ils sont au commissariat sur des affaires comme ça, les officiers de police judiciaire, qui, je le rappelle, déroulent toujours une enquête sous le contrôle des magistrats du parquet ou des juges d'instruction quand il y a une instruction ouverte. Les officiers de police judiciaire font leur job le plus délicatement possible et informent ensuite la victime qu'elle a la possibilité d'avoir un suivi psychologique gratuit, donne les adresses, etc. Et, après, il y a effectivement, il y a aussi... Ça tient d'une démarche personnelle. Un suivi psychologique, ça tient aussi d'une démarche personnelle. C'est avec une nécessité pour la personne d'y aller, de faire en sorte. Donc voilà, on est dans une espèce de continuum délicat entre la victime, ce qu'elle peut faire elle-même, même si elle est déconstruite et même si elle est abattue, et ce que peut faire à la fois la justice et la police dans ce domaine, c'est très délicat, c'est véritablement très ferme.
Nous sommes en direct sur CNews, 90 minutes info, encore un quart d'heure de débat. Nous allons parler un peu de politique maintenant, la politique française. Dans quelques instants, la rentrée des Républicains, notamment à Angers ce week-end, avec Bruno Retailleau qui a confirmé sa candidature. Mais d'abord, puisque cette déclaration, cette interview en tout cas vient de nous parvenir, c'est Jean-Luc Mélenchon qui donnait meeting aujourd'hui à Lille et qui a visé directement le gouvernement et Elisabeth Borne. Écoutez-le, voilà ce qu'il dit, le chaos... C'est vous.
Et Madame Borne qui dit « Les insoumis veulent le chaos ». Pardon, Madame. Le chaos, c'est vous. Parce que c'est vous qui avez tout désorganisé et continuez à le faire. C'est vous qui êtes responsabilité de cette rentrée sociale pourrie, de cette rentrée scolaire qui ne fonctionne pas, etc.
Et donc, évidemment, avec beaucoup de faconde, de hargne, une promesse pour la rentrée. On devine dans les propos de Jean-Luc Mélenchon que la rentrée sociale peut être particulièrement animée avec la colère des Français véhiculée donc par ce chaos. C'est ce qu'il dit en tout cas, Jonathan.
C'est ce qu'il appelle de ses voeux depuis très longtemps, depuis trop longtemps. Jean-Luc Mélenchon, c'est qui aujourd'hui ? Je ne sais pas. Si ce n'est un homme qui appelle à l'insurrection, aux violences, qui appelle ses représentants, ses élus, puisque lui-même n'est élu de rien. Il est même de plus en plus critiqué à l'intérieur même de la LFI pour une gestion dictatoriale de ce parti. Cet homme ne fait que discours après discours, démontrer son anti-républicanisme, on a affaire à quelqu'un qui est à l'opposé de notre système politique systématiquement. Il est contre la démocratie. Il le prouve par la gestion de la France insoumise. Il est contre la République. Il le prouve par la contestation permanente des résultats des élections. À l'entendre, il a gagné la présidentielle. À l'entendre, il a gagné les législatives. À l'entendre, le peuple de France est derrière lui. Et quand il appelle à une déferlante dans les rues de Paris, parce qu'il y a toute la rhétorique qui va avec, on a vraiment le tableau complet de certains grands personnages qui ont illustré quelques années qu'on aime qualifier de sombres.
Néanmoins, sa voix porte au travers de la DUPES, de la France Insoumise, William T. Et c'est un appel à la manifestation, à une rentrée sociale animée. Et ses propos peuvent être entendus par cette partie.
Les Français et la gauche a attendu 30 à 40 ans que Jean-Luc Mélenchon devienne un homme d'État. Il est visiblement jamais devenu. Ensuite, après, les Français l'ont envoyé à la retraite lors des élections présidentielles. Il a voulu revenir aux élections législatives. On l'a encore, les Français l'ont encore envoyé à la retraite parce qu'il rêvait d'être Premier ministre. Et aujourd'hui, Papy fait de la résistance en essayant de proclamer et d'être le professionnel de la manifestation et de foutre le bordel. Jean-Luc Mélenchon a vécu pendant 40 ans foutant le bordel dans le pays. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il était là pour agiter, foutre le bordel au sein du Parti Socialiste, parce que Hollande et ses amis l'ont foutu dehors parce qu'il foutait le bordel au sein du Parti Socialiste. Ensuite, il a foutu le bordel chez les communistes. Là, maintenant, il a foutu le bordel chez LFI, comme vous l'avez rappelé. Obono et Autain n'en veulent plus et ses amis n'en veulent plus non plus. Et aujourd'hui, il essaie de foutre le bordel en France. En fait, sa passion, c'est de foutre le bordel dans le pays. À chaque fois, il proclame. Et toutes les années, on a une nouvelle déclaration de Jean-Luc Mélenchon. Et c'est le moment du chaos. Parce qu'il ne vit que sur le chaos. Jean-Luc Mélenchon vit sur le malheur des gens et vit quand la France va mal. En fait, lui est heureux quand la France est malheureuse et Jean-Luc Mélenchon ne prospère que dans ces situations-là. Je pense que le sujet essentiel, c'est est-ce que Jean-Luc Mélenchon arrivera à mobiliser socialement. Ce qu'on a vu, notamment lors des 5 dernières années, c'est que Jean-Luc Mélenchon, à chaque fois qu'il annonçait une manifestation ou qu'il a repris une manifestation à son compte, elle était en train de couler. Je vais illustrer. Sur la SNCF et sur les annonces travail, il appelait à la grande manifestation, il n'y a quasiment rien eu. Il voulait faire une grande manifestation sur la réforme des retraites, il n'y a pas eu de manifestation, en tout cas, les syndicats l'ont écarté. Sur les gilets jaunes, quand Jean-Luc Mélenchon reprend à son compte le motif des gilets jaunes, c'est le moment où le nombre de manifestants des gilets jaunes commence à baisser. Donc au final, moi je conseillerais aux personnes qui ont des raisons légitimes de manifester pour leurs droits sociaux, pour leur pouvoir d'achat, de le faire, mais sans Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il va couler votre mouvement.
Néanmoins, ces gens-là, ceux dont parle William T, peuvent entendre et répondre à l'appel de Jean-Luc Mélenchon néanmoins. Jean-Michel Fauvergue.
Moi, je crois, comme mes camarades ici sur le plateau, que son audience est largement corrompue aujourd'hui parce qu'il a tout perdu, effectivement, et ce n'est pas la première fois qu'il perd tout. Il s'est présenté à 3 présidentielles, à chaque fois, il les a perdues, mais pas que. C'est un homme aussi qui a fait toute sa carrière dans la politique. Il a été payé par l'État français, c'est un politique professionnel. Mais par-delà tout ça, ce qu'il est en train de virer, enfin ça fait longtemps qu'il vire comme ça, mais là il durcit le ton. C'est un homme qui c'est une seringue de haine et il appuie toujours sur le piston toujours plus. Alors il peut sans doute être écouté, mais pas tellement être écouté de l'ultra gauche qui a une longue tradition d'ailleurs de chaos et de manifestations, qu'elles soient politique organisée ou que ce soit dans la rue, mais il peut être écouté par un certain nombre d'extrémistes virulents qui peuvent passer à l'action et qui peut légitimer des actions comme ça. Comme d'ailleurs, je le rappelle, Mélenchon a été condamné pour s'être opposé à une action de justice et de police.
Est-ce que cela peut provoquer le retour des gilets jaunes, par exemple?
Est-ce qu'il pèse suffisamment?
Oui, bien sûr, il n'en est pas l'origine, mais est-ce qu'il pèse suffisamment pour provoquer dans le climat social?
Il pèse rien du tout, et dans son camp, effectivement, dans son camp, il est de plus en plus contesté, en particulier par des gens qui... Ouais.
La caractéristique des gilets jaunes, c'est qu'ils manifestent, mais sans leader. Et donc, du coup, est-ce qu'ils accepteront d'être repris politiquement?
Oui, on l'a vu souvent, Jean-Luc Mélenchon et d'autres d'ailleurs, dans les manifestations de Gilets jaunes, au Carrefour,
à l'époque des manifestations. Au moment où Mélenchon débarque dans les manifs, le nombre baisse et la manif devient plus populaire.
Il se fait ostraciser, de côté dans les manifs.
Juste un petit mot également pour parler de ce que pourrait faire le futur président des Républicains, puisque les Républicains se sont réunis à Angers ce week-end, c'est l'université des jeunes, et notamment Bruno Retailleau qui a confirmé sa candidature à la présidence du parti. On l'écoute, déclaration aujourd'hui.
J'ai une conviction et j'ai une ambition. Ma conviction, c'est qu'après 3 échecs, à 3 élections,
présidentielle, il n'y a pas de fatalité. La condition, bien sûr, c'est de tout changer. Pas seulement de changer les visages, pas seulement de changer le nom d'un parti, de tout bousculer, de tout changer. Refonder un nouveau parti pour reconstruire une vraie droite. Une droite qui soit courageuse, pas une droite honteuse. Je parlais tout à l'heure d'une France qui s'abîme, d'une France fragilisée, des fondements de notre civilisation qui sont aussi profondément menacés. Moi, je veux une droite qui ne recule plus parce qu'on a accumulé trop de renoncements. Et puis, je veux aussi une droite qui soit rassemblée. Je ne veux pas d'une droite rétrécie.
La politique, on en parlera d'ailleurs dans Punchline dans quelques instants avec Patrice Boisfert et son invité Michel Onfray. Vous restez avec nous sur CNews. Un mot de commentaire sur ces déclarations. Quand on écoute Bruno Retailleau, William T., le changement, c'est maintenant.
En fait, ce qui se joue sur les Républicains, c'est que l'UMP et les Républicains s'est construit sur un rassemblement qui était clair. C'est l'alliance des libéraux et des conservateurs sous l'égide d'un chef gaulliste. La difficulté, c'est que les libéraux sont partis chez Emmanuel Macron et les conservateurs sont partis et séduits par Marine Le Pen et surtout par Éric Zemmour. Donc du coup, qu'est-ce qui reste aux Républicains? Les Républicains bénéficient principalement de l'effet d'alternance. C'est ce qu'ils ont espéré après François Hollande et c'est comme ça qu'ils gagnaient chaque élection. À partir du moment où vous n'avez plus le vote utile, que vous n'avez plus l'alliance des libéraux et des conservateurs, qu'est-ce qui vous reste? Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est opérer pour la droite, si elle veut avoir une chance, c'est pareil pour le Parti Socialiste, une refonte complète parce qu'en fait, les partis de droite et les partis de gauche ne sont plus à jour au moment du 21e siècle, au moment où on vit des grandes mutations mondiales. Et je pense que Bruno Retailleau a des qualités, notamment parce qu'il a des qualités intellectuelles, notamment quand vous lisez ses bouquins et ses écrits, parce qu'il avait été prévoyant sur la question de la crise énergétique. Je crois qu'il avait écrit un livre sur « Est-ce que nous aurons de l'électricité ou de la lumière à la fin de l'hiver ?» Je pense que c'est sur les idées que les Républicains se trouveront un espace et ils doivent trouver une utilité de vote. La question essentielle, c'est est-ce qu'en fait, les gens ont un intérêt à voter Républicain? Pour quelles raisons? Pourquoi? Et pour quel programme?
Merci de nous avoir accompagnés en tout cas dans 90 minutes info. On revient demain, mais vous restez avec nous sur CNews aujourd'hui. Dans quelques instants, c'est Punchline avec Patrice Boisfert et donc son invité Michel Onfray. A tout de suite. L'information continue, bien sûr.